fidèle jusqu'à la mort. Chapitre 1er. Dans la vieille chapelle. Un matin de printemps, en l'an de grâce 1395, le soleil brillait avec éclat sur les tours crénelées du château de Lovel, situé dans une des parties les plus agrestes de la verte Angleterre. Bien que la journée commençât seulement, il était à peine 7 heures, une joyeuse activité animait déjà les vastes salles du vieux manoir, car Dame Lovel surveillait elle-même les servantes qui préparaient le repas. La châtelaine était de taille moyenne, mais son extrême embonpoint la faisait paraître petite. Sa figure, ronde et avenante, était encore illuminée par les reflets ardents du grand feu, qui flambait dans l'immense cheminée. La dame était vêtue d'une robe noire, bordée d'une bande de fourrure, et portait sur sa tête une de ces étranges coiffures coniques, que l'on appelait nains, faites de gaze noire empesée et couverte d'étoiles dorées. Ses aides étaient, pour la plupart, des jeunes filles de 15 à 25 ans, occupées dans tous les coins de la cuisine, tandis qu'à une table, un peu à l'écart, Dame Catherine, femme d'âge mûr, qui remplissait les fonctions de majordome, mélangeait savamment des ingrédients variés. Au milieu de cette troupe affairée, Dame Lovel allait et venait, remuant le contenu d'un pot, soulevant le couvercle d'une marmite, gourmandant par-ci, critiquant par-là et ne relâchant pas une minute son active surveillance. Non, il te faut couper les anguilles en plus petits morceaux. Silette, prends donc garde à la soupe. Elle va déborder de la marmite. Alice, paresseuse que tu es. Et on entendit le bruit d'un soufflet bien appliqué, tu as oublié les oignons dans le potage. Marjorie, Madge, où est demoiselle Marjorie? Joan, ma fille, va voir bien vite si demoiselle Marjorie n'est pas dans sa chambre. Joan, une fillette de 16 ans, abandonna le persil qu'elle était en train de hacher, et s'élança hors de la salle. Elle reparut bientôt tout essoufflée, et, faisant une révérence à sa maîtresse, elle lui annonça que demoiselle Marjorie était dans sa chambre, et qu'elle allait venir sans tarder. Demoiselle Marjorie parut, en effet, presque immédiatement, et puisqu'elle sera l'héroïne de notre récit, nous ferons bien de l'examiner avec quelque attention. Marjorie était l'unique enfant de Sir Godefroy Lovel, chevalier, et de Dame Agnès Lovel. Au moment où s'ouvre notre histoire, elle avait 17 ans. De haute taille, svelte et élancée, elle paraissait frêle et délicate. Ses traits étaient réguliers. Ses yeux gris avaient un beau regard droit, franc et sincère, et ses cheveux, qui, défaits, tombaient jusqu'à ses pieds, étaient de cette couleur d'or pâle si rare de nos jours, et si appréciée au Moyen Âge. Marjorie était vêtue d'une robe noire, bordée de gris, c'est-à-dire de martre, et toute raidie par les baleines qui en soutenaient la riche étoffe. Par-dessus cette robe, la jeune fille portait une cotte hardie, sorte de jaquette étroitement ajustée, et, au lieu de la haute coiffure en clocher qui défigurait sa mère, un filet en tissu d'or, ornée de perles, la dovecote retenait ses cheveux. Marjorie était, pour son époque, une demoiselle accomplie. Elle savait jouer du luth, chanter, exécuter avec adresse des broderies merveilleuses, et préparer des mets savoureux. Elle savait aussi naturellement reconnaître un seigneur, ou un chevalier en jetant un simple coup d'œil, sur le bouclier de ce noble personnage, et n'aurait pas hésité un instant, pour dire à qui appartenaient les trois lions rampants de sable, ou l'arc d'argent sur champ de gueule. Tout ceci ne représentait que le savoir ordinaire d'une femme noble de ce temps, mais notre héroïne en savait bien plus long. Marjorie savait lire, et, de plus, comme les servantes se le répétaient l'une à l'autre à voix basse, tout émerveillée de la science de leur jeune maîtresse, Marjorie savait écrire. Dame Lovel ne se targuait ni de l'un, ni de l'autre de ses avantages, mais Sir Godefroy, qui était un homme lettré, et qui possédait une bibliothèque, avait résolu que sa fille recevrait une instruction soignée. La bibliothèque de Sir Godefroy était considérable pour l'époque, elle contenait 42 volumes, dont 5 étaient des manuscrits enluminés avec articles, il y avait la quête du Saint Graal, les voyages de Sir Jean de Mandeville, la chronique de Mathieu Paris, la cité de Dieu de Saint-Augustin, et un bréviaire. Dame Lovel ne possédait pas de bréviaire, pour la bonne raison qu'elle n'aurait pu s'en servir, mais avec la permission de son père, Marjorie employait tout son talent à copier le texte, et les enluminures du manuscrit précieux, afin d'avoir bien à elle un bréviaire pour son usage particulier. Elle était précisément occupée à reproduire, sur vélin, une miniature représentant Judas Iscariote en chaussures moyenâgeuses, et Saint-Pierre tirant sur Malchus avec une arquebuse, lorsque sa mère l'avait fait appeler. Marjorie entra sans bruit dans la cuisine, et, faisant à sa mère une profonde révérence, lui dit d'une voix douce et claire, « Vous m'avez fait appeler, madame ma mère ?»« Oui, ma fille. » Voyez comment Alice confectionne la soupe, car elle n'y entend rien. Occupez-vous ensuite du gruval, tandis que je râpe ses amandes pour le massepain. Marjorie s'acquitta tranquillement de sa tâche, et s'adressa à la servante confuse sur un ton beaucoup plus doux que Dame Lorraine ne l'avait fait. Elle était occupée à préparer des anguilles en gruval, sorte de ragoût d'anguilles, lorsqu'un jeune homme élancé, vêtu comme un page, entra dans la cuisine. Et, Richard Pinson, s'écria Dame Lovell, vous êtes un messager rapide. Je ne vous attendais pas avant ce soir. J'ai terminé mes affaires beaucoup plus tôt que je ne le pensais, madame, répondit le jeune homme. Avez-vous appris quelques nouvelles? Aucune, noble dame, à moins que vous ne considériez comme telle l'annonce d'un sermon, qui sera prononcé dimanche prochain dans l'église de Bostock, par un clerc d'Oxford, maître Sastre. Marjorie avait interrompu son travail, et écoutait Richard avec attention, tandis que celui-ci s'appuyait nonchalamment contre la paroi. « Voulez-vous y aller, demoiselle Marjorie ?» Marjorie jeta à sa mère un regard timide. « Je ne demanderai pas mieux, dit-elle, si votre bon plaisir m'y autorise. » « Et, ma fille, allez-y, répondit Dame Lovell avec bonne grâce. Il est rare d'entendre un sermon à Bostock. Le père légat n'est guère enclin à prêcher, me semble-t-il. J'irai avec vous, Richard, dit Marjorie, et cela bien volontiers, car j'aimerais grandement entendre le révérend père. Jamais encore, je n'ai vu un clerc d'Oxford. Puis elle se remit à la confection des gâteaux qu'elle préparait. Dame Lovell s'éloigna pour retirer le potage du feu, et Pinson, s'approchant de Marjorie, lui dit à voix basse, on dit que ce maître Sastre prêche d'étranges choses, comme celles que maître John Wycliffe annonçait jadis, mais puisque l'église ne lui défend pas, il me semble que nous pouvons aller l'écouter. Marjorie rougit et répondit sur le même ton, « Cela ne nous fera-t-il pas de mal ?»« Je ne le pense pas, » répondit Richard, et, jetant son carnet sur son épaule, il quitta la salle. Avant d'accompagner Marjorie et Richard au prêche de maître Sastre, il nous faut présenter le jeune Pinson au lecteur. Il était le page de Sir Godefroy Lovell, et le fils de Sir Jean Pinson de Pinsonlay. C'était la coutume au Moyen-Âge d'envoyer les jeunes gentilshommes faire leur apprentissage de chevalier chez quelques seigneurs, où ils servaient en qualité de page ou d'écuyer. Richard Pinson n'occupait donc nullement une situation inférieure au château de Lovell, et il était en tout point l'égal de Marjorie par la naissance et l'éducation. Le dimanche où maître Sastre devait prêcher était une exquise journée de printemps, messagère des beaux jours. Marjorie, vêtue de noir, avec un capuchon par-dessus sa cotte hardie, fut aidée par son père à se mettre en selle, Richard Pinson étant déjà assis devant elle sur le grand palfroid gris. Ils chevauchèrent lentement jusqu'à l'église, distante de 3 kilomètres environ, tandis qu'un petit page qui devait prendre soin de leur monture pendant le service, courait à côté d'eux. La messe fut dite par le curé de la paroisse. Le clerc d'Oxford, qui était assis dans la chaire, lut l'évangile du jour, mais ne prit pas autrement part à la cérémonie. Dans ces temps lointains, les sermons pouvaient se ranger en 2 catégories. Ou bien le prêtre lisait un passage des Saintes Écritures en latin, en y ajoutant quelques brefs commentaires, ou bien il faisait une longue et aride dissertation sur quelques points de dogme, souvent absurdes. On discutait longtemps, par exemple, pour savoir si le mot ange était synonyme d'esprit, ou bien encore lequel des 7 principaux anges était le chef des autres. On tâchait d'évaluer le temps qu'il avait fallu à l'ange Gabriel pour voler du ciel sur la terre, lors de l'Annonciation à Marie. On se perdait en conjectures pour savoir à quel moment de la journée il était apparu à la Vierge, comment il était vêtu, etc. Le discours prononcé par maître Sastre ne fut ni une aride dissertation, ni un exposé de dogme sans vie. Il lut d'abord un texte en latin, suivant l'usage, puis il parla ainsi, « Maintenant, mes frères et mes sœurs, nous allons relire, en langue vulgaire, ce passage de la parole de Dieu. Digne est l'agneau, qui a été immolé, de recevoir la puissance et richesse et sagesse, et force et honneur et gloire et bénédiction. » Apoc. 5h12, ce qui suivit, ne fut pas plus une discussion scolastique que des remarques banales sur le texte choisi. L'agneau qui a été immolé fut le sujet qui remplit la prédication de Sastre. Il divisa son discours en plusieurs points. Qui est l'agneau? Comment et pourquoi a-t-il été immolé? Pourquoi est-il digne? Et qui sont ceux qui, dans le texte sacré, proclament ainsi sa gloire? Le prédicateur, se référant au sacrifice de la loi de Moïse, expliqua d'abord à son auditoire pourquoi Christ est appelé un agneau. Puis il montra avec force qu'il est mort, lui, le juste, pour les injustes, afin de les amener à Dieu. Enfin, il expose à toute la perfection de son œuvre, qui est parfaitement et définitivement accomplie. Il parla aussi de l'amour de Dieu envers les pécheurs, de cet amour si grand qui lui fit donner son propre Fils, son bien-aimé, afin qu'il se chargeât de leurs péchés, et leur donna sa justice en échange. Et enfin, il décrivit à son auditoire cette glorieuse et sainte cité où le péché, la douleur et la mort n'entreront pas, dont les fondements sont des pierres précieuses, et dont les portes sont d'une seule perle. Cette demeure des bienheureux, qui, ayant lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ne cesseront ni jour ni nuit de chanter ses louanges. Sastre attira aussi l'attention de ses auditeurs sur le fait que ce sont les anges qui rendent hommage à l'agneau. Dans tout ce livre, dit-il, je ne vois pas que de telles louanges soient offertes à un autre qu'à Dieu. Les saints anges adorent l'agneau. Mais personne n'adore les anges. Seul, saint Jean, il est vrai, se prosterne deux fois au pied de l'ange qui lui fait voir ces choses. Mais le messager céleste ne semble pas réjoui par cet acte. En vérité, saint Jean est même tensé par lui. Apoc. 19h10. Vous voyez donc, chers amis, combien est grande l'erreur de ceux qui adorent les saints anges, et combien ceux-ci en sont affligés, s'ils le savent. J'ignore s'ils connaissent toutes ces choses, car ce saint livre ne nous le dit pas. Mais vous voyez, chers frères, que s'ils le savent, ils en ont du mécontentement. Et s'ils n'en savent rien, pourquoi s'adresser à eux? De plus, il me semble pour la même raison que la Sainte Vierge Marie, qui est maintenant dans le ciel avec son Fils et Seigneur Jésus-Christ, ne doit être aucunement satisfaite si elle voit comme les hommes l'adorent sur la terre. Et on pourrait en dire autant de tous les saints. Arrivé à la fin de son sermon, Sastre se pencha par-dessus le rebord de la chaire et d'une voix basse et persuasive, ajouta encore, « Y a-t-il ici, mes bons amis, quelqu'un qui aime ce précieux Seigneur Jésus, cet agneau qui a été immolé, lequel de vous renoncera à ce monde misérable pour l'amour de lui, qui est prêt à suivre l'agneau où qu'il aille, même s'il nous conduit par le chemin de l'épreuve, ou par la prison, ou par la voie douloureuse de la pauvreté, ou par la porte basse et sombre de la mort? Qui est prêt? N'y a-t-il personne? Christ ne possède-t-il pas une âme ici? Lorsque les saints anges dénombreront les élus, faudra-t-il qu'ils passent Vostok sous silence? Vostok sera-t-il moins favorisé que Sodome et Gomorre, où une âme du moins a été sauvée? N'y en a-t-il pas une dans cette ville? Non, mes frères, il n'en sera pas ainsi. J'ai confiance que vous viendrez en grand nombre, en foule, oui, toute une multitude, pour entourer Christ, pour toucher le bord de son vêtement, c'est-à-dire sa grande miséricorde. Christ aime qu'on vienne à lui pour implorer sa grâce. Jamais il ne s'est plaint d'être pressé par les foules. Jamais il n'a repoussé un misérable pécheur qui est venu à lui. Il ne leur a reproché que de ne pas venir à lui et de manquer de foi. Mes amis, je suis un vieillard et, selon toute probabilité, je ne reviendrai plus jamais ici. Mais comme je chercherai dans la multitude des bienheureux, les visages qui sont en ce moment tournés vers moi, Dieu m'accorde de les revoir tous. Je prie Dieu que chacun de vous puisse être vêtu de cette robe éclatante et pure, et que chacun de vous s'écrie un jour, dans la cité de Dieu, digne l'agneau. Ce sermon produisit sur Marjorie Lovell une impression profonde. Jamais encore, elle n'avait entendu parler de l'agneau qui a été immolé. Le retour fut silencieux. Lorsque les jeunes gens furent près du château, Marjorie rompit le silence. « Messire Pinson, nous avons entendu aujourd'hui des choses étranges. En vérité, demoiselle, je me demande si Maître Sastre a raison. Combien j'aimerais posséder le livre dans lequel Maître Wycliffe a traduit la parole de Dieu en langue vulgaire. » Continua Marjorie. « Je saurais alors si Maître Sastre a dit vrai. Ah, si je connaissais quelqu'un qui posséda ce livre précieux. Sir Caref de Marston m'a dit, il y a quelque temps, répondit Richard en hésitant un peu, qu'il a chez lui l'évangile de Saint Jean l'apôtre. Un clerc habile a copié jadis, d'après la traduction de Maître Wycliffe. Oh, messire Pinson, s'écria Marjorie, suppliez Sir Caref de me prêter ce livre. Dites-lui que je lui donnerai mes plus beaux bijoux en gage pour qu'il me le cède. Il faut que je le voie. Doucement, doucement, d'un moine en selle, répondit Richard en souriant. Il convient de faire toutes choses avec prudence. Vous n'ignorez pas que Maître Wycliffe et Maître Sastre lui-même ont été considérés par plusieurs comme hérétiques. Vous ne voudriez pas être mis au banc de notre Sainte Église? Je supporterai n'importe quoi, répliqua Marjorie avec ferveur, afin d'être assurée que je porterai un jour ces vêtements blancs, et que je chanterai dans la cité de Dieu, digne l'agneau. Noble demoiselle, je ferai de mon mieux pour vous procurer ce livre, Mais peut-être se passera-t-il un long temps avant que je voie Sirk un rêve. Dame Lovell accueillit les jeunes gens sur le perron du château. « Richard Pinson, dit-elle, Sir Godefroy, désirez-vous parler promptement ?» Et comme le jeune homme se hâtait d'aller rejoindre le châtelain, elle ajouta en s'adressant à Marjorie, « Votre père a une commission urgente pour Marston. Eh bien, ma fille, comment avez-vous aimé le prêche ?»« Grandement, ma mère. » »« Jamais encore, je n'ai entendu semblable mélie. » Marjorie courut à sa chambre, et un instant après reparaissait dans la grande salle, au moment où Richard y entrait aussi. Elle tenait à la main un collier de grand prix. « Sir Godefroy m'envoie porter un message à Sir Ralph Marston, » dit le jeune homme, et il ajouta malicieusement, « Avez-vous quelques commissions pour Marston, damoiselle ?»« Mais Sir Pinson, prenez ce bijou, portez-le à Sir Carève, et laissez-le lui, engage, s'il veut me prêter son livre. Et, si la valeur de ce collier n'est pas suffisante, je lui en enverrai un autre encore, mais que je puisse voir le volume. » Richard plaça le collier en sûreté dans la doublure de son pourpoint. « Si je ne vous rapporte pas ce que vous désirez, dit-il, ce ne sera pas faute d'avoir fait de mon mieux pour l'obtenir, mais n'espérez pas trop. Si, j'allais échouer, Dieu veuille qu'on vous prête ce livre, » fut la réponse de Marjorie.